Merci à toutes et tous d'être là ce soir. Nous sommes ensemble, c'est prévu jusqu'à 21h, mais comme le cinéma est à 20h45, peut-être qu'on peut vous libérer à ce moment-là pour ceux qui ont envie d'aller au cinéma, et puis peut-être aussi de dîner. C'est pas si facile de dîner à Cluny après 21h, donc on va essayer de terminer un petit peu plus tôt que prévu. Je pense que ça serait bien. Donc vous avez vu que cette table ronde s'appelle « Reprendre l'initiative ». Je m'appelle Lucille Schmid et je préside un lieu de réflexion qui s'appelle « La Fabrique écologique », qui existe depuis 2013. Et qui organise ses travaux autour de deux axes. Le premier, c'est de traiter à parité les questions climatiques et les enjeux de biodiversité. Je trouve que la nature a été souvent une grande oubliée des questions écologiques. Et donc je pense que c'est un point essentiel et qu'en plus ça entraîne des manières de voir l'écologie souvent assez différentes. On peut parler d'émotion, on peut parler d'éco-sensibilité. Et le deuxième axe de nos travaux, c'est un axe qui s'efforce de construire ce qu'on pourrait appeler des récits, les récits d'une écologie solidaire. Alors, tout le monde emploie le terme de récit, tout le monde emploie le terme d'imaginaire, mais on voit bien qu'aujourd'hui, imaginer le projet de société, la société écologique, je me rappelle qu'en 2015, au moment de la conférence de Paris, lorsqu'on cherchait sur les sites des institutions du Quai d'Orsay ou ailleurs, quel allait être au fond le programme qu'organisait l'accord de Paris, il y avait toujours société post-carbone ou société post-COP21. Et je me suis toujours dit que tout ça était fort abscon et que cette question du projet de société, la société écologique telle qu'elle vient, je crois qu'il est essentiel d'en dessiner les contours. Donc reprendre l'initiative, c'est certainement ça. C'est aussi évidemment modifier le champ démocratique, le fonctionnement de notre démocratie. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin sur ce qui est en train de se passer, et particulièrement aujourd'hui, où nous attendons la nomination d'un Premier ministre, le cornu 3 ou pas, 4, 2... Biscornu, dit Eric.
Elle n'est pas de moi.
Voilà. En tout cas, reprendre l'initiative pour nous, pour en avoir discuté ensemble, c'est d'abord évidemment définir la situation dans laquelle nous nous trouvons, et particulièrement sur le front de l'écologie, lorsqu'il s'agit d'imaginer une société écologique majoritaire. C'est pas seulement à l'échelle de la France, c'est au moins à l'échelle de l'Europe et du monde, si nous avons le temps d'aborder cette question, mais après tout, on n'est pas si loin de la COP de Belém. Donc, définir la situation dans laquelle nous nous trouvons, situation dite de backlash, mais aussi situation où les initiatives écologiques ou les bifurcations écologiques se multiplient. Qu'en est-il de cette situation, comme dirait Catherine Larère dans la table ronde précédente, complexe plutôt que compliquée? Et puis, nous aurons un deuxième tour de table pour essayer de proposer à partir de l'analyse de cette situation telle que nous l'aurons analysée. Voilà, donc ça suppose évidemment un peu de discipline puisque nous avons quatre intervenants de très grande qualité. Éric Eschiman, qui est journaliste au Nouvel Observateur et qui vient de publier « Les vipères ne tombent pas du ciel », qui porte assez exactement sur le sujet que nous devons, sur lequel nous devons réfléchir ensemble ce soir. Julia Faure, qui est cofondatrice du mouvement Impact France, cofondatrice de l'entreprise Loom, qui travaille sur la question textile, qui a pris des positions très fortes contre la fast fashion et qui représente, je dirais, les entreprises engagées sur ces questions environnementales, engagées avec force, y compris quand ça entraîne de la conflictualité dans le milieu professionnel qui est le tien. Delphine Bateau, députée des Deux-Sèvres, ancienne ministre de l'écologie, et qui a notamment initié un festival qui s'appelle le Festival de la décroissance, qui a lieu à Delphine, Saint-Mexant-l'École, par ailleurs ville de garnison, mais qui donc a changé depuis que le Festival de la Croissance s'y produit. Et puis Christian de Pertuis, économiste, qui a beaucoup travaillé sur les questions climatiques, qui a introduit les questions climatiques même à l'Université Paris-Dauphine, il y a déjà un certain temps, qui a écrit sur le carbone à la fois sous l'angle climatique et sur le carbone du vivant, ce qui me semble être un point essentiel lorsqu'il s'agit de justement d'aborder biodiversité et questions climatiques d'un seul tenant. Voilà, c'est eux qui vont débattre entre eux, vous exposer leur vision ce soir avant que nous dialoguions ensemble. Eric, c'est toi qui commences. Donc, est-ce que tu peux essayer de nous décrire cette situation dans laquelle nous nous trouvons, situation de complexité, situation dans laquelle on a du mal à s'y retrouver? Est-ce que l'écologie va si mal que ça? Est-ce qu'il y a un backlash écologique? Et est-ce qu'il touche particulièrement les classes populaires?
Alors, bonsoir, merci de l'invitation, merci à tous d'être là. Merci Lucille de cette présentation. Oui, il y a un backlash. Qui se repère, le réseau Action Climat a évalué à 43 le nombre de reculs écologiques pour la seule année 2025. Ça a commencé début 2024 avec le gouvernement Attal. Ça, c'est pour la France. Il y a aussi un backlash au niveau européen avec le détricotage du Green Deal. Il y a un backlash écolo aux États-Unis. J'ai pas besoin de vous faire de dessin. Et il y a un air du temps. Il y a une ambiance. Il y a une musique. Ça matche moins, c'est moins consensuel, on l'oublie dans les questions, les intervieweurs l'oublient dans les questions quand ils interrogent des hommes politiques. Voilà, il y a quelque chose qui... Il y a eu un petit âge d'or entre 2015 et 2022, et c'est en train de se retourner. Ensuite, c'est... En tant que tel, c'est pas forcément très grave parce que la question écologique, on est parti pour des décennies, donc je pense qu'il faut aussi garder notre sang-froid, mais il se passe quelque chose. Et moi, ce que j'ai essayé, ce que je peux apporter là, c'est la synthèse de l'enquête que j'ai essayé de mener sur ce backlash. Alors, pour dire tout de suite, la première raison, on la connaît tous, c'est les manipulations du lobby pétrolier, du lobby du carbone, on peut dire. Avec ces relais dans la presse. En France, on connaît tout ce que fait le groupe Bolloré, Pascal Pro, CNews, mais aussi Le Point. Enfin voilà, tout ce discours qu'on peut appeler climat. Alors, il n'y a plus de vrai climato-scepticisme, encore que ça se balade un peu, mais il y a du climato-rassurisme, du climato-je m'en foutisme. Et il y a vraiment une écolophobie d'en haut. Que moi, j'ai pu dans mon métier constater à l'Académie des sciences morales et politiques, au Conseil national des programmes, à la Banque de France, enfin, ouais, au ministère de l'Intérieur. Voilà, il y a des endroits comme ça où, dans les milieux d'affaires, à l'Académie de technologie, on me disait l'autre jour qu'il y avait en gros un bon tiers de climato presque sceptique, enfin hyper relativiste. Voilà. Donc il y a clairement en haut des gens pour qui c'est leur monde qui se défait et ils ne veulent pas en entendre parler parce qu'avec leur monde, ils perdent leurs avantages. Mais je pense que cette propagande n'aurait pas d'impact, du moins c'est l'hypothèse que je fais, si elle ne rencontrait pas dans l'opinion publique des réticences, des rejets, des critiques réelles à l'endroit de l'écologie et qui se voient notamment dans les résultats électoraux. L'écologie, les analystes le pointent, est devenu l'un des le rejet de l'écologie est devenu l'un des carburants du vote populiste et notamment du RN en France et il y a des études cartographiques qui le montrent assez bien. Ce rejet, il est principalement des classes populaires. Je vais resserrer c'est pas les classes populaires, des quartiers populaires. Dont il a été dit tout à l'heure ici de façon très juste que il y a un intérêt. D'ailleurs, il y a des associations, il se passe plein de choses. C'est les classes populaires des zones périurbaines et rurales. Alors, sur un plan sociologique, mes catégories sont très approximatives. Je suis pas sociologue. Je m'appuie sur des travaux de sociologues. Notamment, je cite tout de suite parce qu'il m'a beaucoup aidé Jean-Baptiste Combi, dont je vous recommande la lecture de son Écolo, mais pas trop. C'est lui auquel j'emprunte ces catégories. Mais voilà, les catégories des milieux périurbains, enfin des territoires périurbains et ruraux, tout simplement parce que ce sont des endroits où la voiture, le pavillon et accessoirement des loisirs type le barbecue ont une centralité qui ne sont pas dans les quartiers populaires, qui sont, même s'ils sont souvent en marge des villes, reliés quand même, il y a vraiment des transports en commun et il n'y a pas d'habitat individuel. Et dans ces endroits, les travaux des sociologues montrent que l'écologie est rejetée. Alors, il va y avoir deux niveaux. Les travaux des sociologues montrent qu'elle est rejetée parce que c'est perçu comme un discours dominant. C'est un discours de sachant. C'est un discours qui vient d'en haut. C'est perçu comme un discours tenu par la petite bourgeoisie intellectuelle ou la bourgeoisie intellectuelle, c'est-à-dire en gros nous, les gens qui ont eu des diplômes, les gens qui ont aimé l'école, l'université, qui ont un goût, un rapport enchanté au savoir, qui aiment apprendre. Et l'écologie, c'est apprendre, se passionner pour l'écologie, se convertir, c'est avoir ce goût d'apprendre plein de choses. Et on arrive avec ce goût, la façon d'en parler, de le mettre en mots, de les références qu'on a. Et on les met dans le champ public en sous une forme d'injonction, hein, parce qu'on veut que tout le monde change, on veut que le monde change. Donc on enjoint la société et donc les autres à changer avec nos mondes, nos catégories. Et ça, c'est reçu par des gens pour qui le rapport au savoir, à ce type-là de savoir, au savoir académique, est un rapport en général douloureux, parce que l'expérience de l'école n'a pas été très agréable, souvent une source d'humiliation. Et donc il y a un rejet, mais c'est des gens qui ont des savoirs pratiques extrêmement intéressants, et évidemment que je veux dire nous, enfin voilà, en tout cas moi j'ai pas. Donc voilà, et donc c'est reçu comme quelque chose qui vient d'en haut. Et donc, ça vient réveiller une logique de domination, en fait. Hein. Il y a un habitus de l'aide, du coup, j'emprunte les catégories de Bourdieu. Il y a un habitus de la classe intellectuelle qui vient se heurter à un habitus de la classe, des classes populaires. Et ça se confronte. Alors, à ça s'ajoute, et je fais court sur ce dernier point, que il a été dit dans plusieurs. Dans la conférence d'avant, et il faut le redire, que les classes populaires subissent plus les dérèglements du climat. Je me sens vraiment sur le climat, mais c'est valable aussi sur la biodiversité, en sont moins responsables, et c'est sur eux que pèsent pour le moment les contraintes les plus fortes liées aux politiques d'atténuation ou d'adaptation. Et si on prend les différentes mesures type ZFE, isolation thermique, aide aux voitures électriques, la plupart du temps ce sont des mesures dégressives, si on se réfère à la logique de l'impôt progressif ou dégressif. C'est-à-dire que, par exemple, l'isolation thermique, eh ben, les aides qui sont conséquentes, ça profite aux ménages qui ont les moyens de faire des travaux à l'extérieur, parce que même si vous avez une aide significative, le reste à charge reste en général quand même autour de, au moins, voilà, en milliers de francs, probablement plus, autour de 10 000 francs, euros, pardon, je ne sais pas d'où sortent ces francs, excusez-moi. Voilà, là je... France-Suisse. C'est pareil pour les voitures électriques. Les aides, les bonus pour les voitures électriques profitent aux déciles supérieurs et les déciles inférieurs, qui en général achètent des voitures d'occasion de deuxième, de troisième main, et à qui on essaie absolument de convaincre d'acheter des voitures électriques. On y reviendra peut-être dans la deuxième partie. Des voitures électriques qui ne sont pas réparables, alors que toute une partie du modèle économique des classes populaires, c'est la réparation, tout comme on va faire soi-même ses travaux. Et ben, ce type de pratiques, qui sont en plus des pratiques écologiques, ne sont pas en quelque sorte reconnus par les dispositifs écologiques, voire même ils sont niés. Donc ces parties de la population sont fondées à dire: écoutez, vous nous faites la morale, vous nous dites que notre voiture elle est pourrie, notre maison elle est pourrie, notre barbecue du dimanche il est pourri, suivez mon regard, et vous voudriez en plus qu'on vote pour vous. Bah non, voilà, en fait on va pas voter pour vous. Et donc voilà, pour moi le backlash, il se situe à deux endroits, mais qui convergent évidemment. C'est une sorte de lutte des classes. Alors, on peut dire parler de bataille culturelle, mais le terme bataille culturelle est ambigu. Donc, disons, lutte d'habitus, habitus contre habitus, et puis des politiques écologiques qui sont dégressives. Et donc, c'est normal que les gens se rebellent.
Merci beaucoup, Eric. Julia, je voulais te demander... moi, ce qui m'importe aussi dans la description de la situation, c'est que tout n'est pas noir. C'est-à-dire qu'on est aussi dans un moment où, par exemple, imaginer Impact France il y a 15 ans, c'était peut-être pas si évident. Imaginer une loi sur la fast fashion il y a 15 ans, est-ce qu'on était vraiment conscient à ce point des dérives de la société de consommation ? Est-ce qu'on n'est pas aussi à un moment de prise de conscience où il y a conflictualité, c'est évident, mais où il y a aussi, encore une fois, engagement et prise de conscience, y compris du côté des entreprises, peut-être aussi parce que dans les politiques publiques, pour rejoindre ce que disait Eric, le rôle de l'État, la question des acteurs publics est aussi à questionner. Mais j'aimerais là-dessus donc t'entendre sur cette situation peut-être plus contrastée qu'un simple backlash.
Oui, bonjour à tous et à tous. Donc moi, je suis chef d'entreprise, j'ai une marque de vêtements et je suis aussi coprésidente d'un mouvement patronal. C'est une sorte de petit MEDEF, mais d'entreprise plus engagée. Et je vais juste vous parler de ce que je vois du monde patronal, parce que le reste, je me sens pas la légitimité de vous dire ce qui se passe. Ce que je vois du monde patronal et qui a dû toujours exister, c'est qu'en fait, on a quelques organisations qui prétendent représenter l'intégralité des entreprises de France et qui, en réalité, servent les intérêts d'une toute petite partie. Pourquoi ça? Je pense que c'est parce que les chefs d'entreprise sont peu engagés politiquement, c'est-à-dire pas sur une question de parti ou des politiques publiques, mais c'est assez compliqué quand on gère une boîte d'en plus aller défendre les intérêts de sa boîte sur une question sectorielle. Et donc en fait, par un système d'affiliation, moi par exemple, je suis adhérente à la Fédération du prêt-à-porter féminin, qui elle-même est adhérente à l'UFIMH, qui elle-même est adhérente, qui est adhérente au MEDEF. Donc sectoriellement, ma boîte est adhérente au MEDEF, donc théoriquement le MEDEF représente les intérêts de mon entreprise qui produit en France, au Portugal avec du coton bio, et pourtant je vois bien que c'est pas ma voix qui est portée dans la représentation publique du MEDEF, la représentation politique du MEDEF. Donc c'est la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que ce n'est pas un backlash généralisé des entreprises, mais comme ce qui se passe pour l'agriculture, c'est qu'en fait, il y a un petit syndicat qui confisque la parole de tout le monde et qui prétend parler au nom de l'ensemble des entreprises. Or, la plupart des entreprises en France, si on prend en termes de nombre, leur vision n'est pas représentée par celle du MEDEF. Je vous prends l'exemple de la taxe Zucman, là, qui a rendu fou le MEDEF. Si vous prenez la taxe Zucman, on sait que c'est 1800 entreprises. Donc, si, en imaginant que les 1800 entreprises sont 1800 patrons, c'est 0,025% des adhérents du MEDEF. Ça ne peut pas être le sujet. Enfin, c'est-à-dire quand on a un syndicat patronal qui met autant d'énergie, qui est prêt à faire un meeting à l'Arena, je ne sais pas si vous avez suivi ça, pour s'opposer à la taxe Zucman, quand ça représente 0,025% de ses adhérents, c'est l'illustration d'un problème de représentation dans ce qui se passe. Et je pense que c'est un peu la même chose qui se passe. On a l'impression qu'il y a un backlash écologique parce qu'il y a un recul des lois, mais c'est aussi peut-être parce qu'il y a un problème de démocratie, en tout cas des politiques qui représentent les convictions des citoyens. Et ben c'est la même chose pour le monde patronal. Ce qui fait que c'est un peu la raison d'être d'Impact France, c'est-à-dire moi j'hérite de cette association, elle avait déjà été montée avant moi, j'en ai pris la coprésidence il y a 3 ans avec Pascal Demurger qui est le patron de la Maïf. Nous, en voyant une forme de radicalisation des mouvements patronaux classiques, nous, moi je trouve qu'en ce moment il y a une radicalisation du MEDEF, notamment il y a un travail qui est fait pour abandonner les objectifs de décarbonation, etc., qui ne sont pas que des objectifs écologiques, qui sont aussi des objectifs économiques très importants pour notre pays. Enfin, si on parle en termes de souveraineté énergétique, on a plutôt intérêt à utiliser de l'énergie qu'on sait produire chez nous plutôt qu'à importer du gaz russe ou du pétrole américain ou quoi que ce soit, quoi. Donc tout ça pour dire qu'il y a une partie des entreprises qui voient, qui sont globalement, on est des êtres humains, donc avec un peu de rationalité, on peut voir... Il y a beaucoup de gens qui ont aussi conscience de la crise écologique qui est en train de se passer et qui en sont très inquiets. Mais même d'un point de vue purement de compétitivité, c'est là où il y a une partie en tout cas du monde des entreprises qui a réussi son coup, c'est qu'ils ont réussi à faire croire que écologie et économie s'opposaient. Et il se trouve que c'est faux. La plupart du temps, c'est faux. Ça pourrait être vrai dans certains pays, mais il se trouve que quand on est la France et que, en fait, ce qui nous différencie du reste du monde, c'est des standards écologiques et sociaux particulièrement élevés, et c'est une énergie plutôt décarbonée, et une grosse partie de notre économie qui repart quand même sur l'agriculture, où on sent bien qu'il y a un petit peu intérêt à préserver la biodiversité, les terres, etc. Si on pense le rendement de notre agriculture à long terme, on voit bien que économie et écologie ne s'opposent pas. Par contre, c'est vrai que, en tout cas d'un point de vue macro, c'est-à-dire que les mesures écologiques... Je vais prendre directement un exemple. l'exemple de la loi fast fashion qu'on a portée avec Impact France et avec d'autres organisations patronales, c'est globalement de dire c'est une loi qui est pour réduire l'impact écologique du textile. Et en gros, si vous montrez aux députés d'où vient l'impact écologique du textile, vous comprenez que le problème, c'est le business model de la fast fashion. Et en fait, si cette loi elle est passée à l'unanimité à l'Assemblée et au Sénat, c'est parce qu'on a démontré aux politiques que c'était pas du tout que l'écologie qui souffrait de développement de ce modèle, c'est une destruction de l'industrie française, également des marques françaises, de notre balance commerciale, de l'emploi, etc. etc. Donc c'est le modèle de la fast fashion qui est une catastrophe écologique est aussi une catastrophe économique pour la France. Je vais pas en dire beaucoup plus, je pense que c'était les deux idées que je voulais passer. Il y a une méreprésentation de la pensée du monde patronal pour une raison assez simple aussi, c'est que je pense que le monde patronal est assez peu politisé. C'est pas du tout dans notre, c'est pas dans nos manières de faire, de parler fort et de s'engager politiquement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'intermédiaires qui le font pour nous. Et ensuite, s'il y a quelque chose à faire et que nous on se fixe comme mission, c'est de pousser cette bataille culturelle, de dire que les gens qui opposent compétitivité et écologie, bien souvent instrumentalisent des choses. Et quand c'est le cas. Parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui s'opposent, il y a des fois où, à l'échelle d'un secteur ou d'une entreprise, ça s'oppose, compétitivité et écologie. Enfin, moi, je fais des marques de vêtements. J'ai une marque de vêtements, je peux vous dire que ça me coûterait beaucoup moins cher de prendre du coton conventionnel que du coton bio. C'est vrai. Et dans ce cas, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des mesures correctrices pour tout ça. Donc, je prends l'exemple de la loi du plomb. Hein. L'argument qui a été beaucoup avancé, c'est les agriculteurs chez nous, ils peuvent pas utiliser un produit et du coup, les autres autour peuvent l'utiliser. Donc, il y a une distorsion de la concurrence qui est vraie. Enfin, c'est vraiment un argument qui est vrai. Effectivement, la filière, elle va pas bien économiquement, notamment à cause du fait qu'ils ont pas le droit d'utiliser des choses que les autres ont le droit d'utiliser ailleurs. Mais je pense que la réponse à ça et la réponse que nous, on essaye de pousser d'un point de vue de compétitivité, c'est que toutes les mesures écologiques qui s'appliquent chez nous doivent s'accompagner de mesures entre guillemets protectionnistes, c'est-à-dire si on régule une pratique chez nous, ça veut dire qu'on ne fait pas rentrer sur notre marché des objets ou des produits ou qui ont utilisé cette pratique. Et ça me semble être, en tout cas c'est un plaidoyer qu'on porte qui sert à la fois à la compétitivité court terme et à la fois à la compétitivité long terme, parce que si vous réfléchissez un peu long terme, vous avez intérêt quand même à ce que votre terre et vos gens ne soient pas trop abîmés. Voilà pour moi.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Julia. Je vais maintenant passer la parole à Christian de Pertuis, avec en rebond de ce que vient de dire Julia, qui associait économie et écologie et montrait comment, au fond, c'est peut-être un autre discours qu'il faut tenir pour faire en sorte qu'on comprenne aussi les ressorts du mieux-être et du lien entre écologie et économie française. Christian, tu avais travaillé sur la taxe carbone et tu avais dit au moment du mouvement des Gilets jaunes que si on n'adossait pas la taxe carbone à des éléments de justice sociale et donc que le verdissement de la fiscalité ne pouvait en aucun cas se faire sans imaginer la redistribution sociale, ce qui est un point, me semble-t-il, fondamental de ce que vient de dire Eric, qui est au fond pourquoi est-ce que on n'imagine pas, lorsqu'on met en place des politiques publiques dites écologiques, les enjeux d'inégalité territoriale et sociale qu'elles peuvent créer, qui peuvent être leurs conséquences. Donc j'aimerais t'entendre là-dessus, sur cette façon dont on peut associer dans la fabrique des politiques publiques ces enjeux économiques, sociaux et écologiques. Et puis, parce que tu as pas mal travaillé sur le monde, notamment sur l'Algérie et sur les questions d'alimentation, etc., j'aimerais aussi t'entendre sur ce qui se passe à l'échelle européenne. Est-ce que l'Union européenne est en train de vivre, elle aussi, une forme de backlash écologique dans son projet ? Ça fait un vaste programme pour 6-7 minutes.
Oui, d'autant plus que je n'avais pas du tout l'intention de parler de ça, hein, mais du backslash. Je m'adapte en temps réel. Hein. Alors, bien évidemment, j'ai oublié ton prénom. C'est clair qu'un grand nombre de mesures qui sont prises au nom de l'écologie sont antisociales parce qu'elles sont régressives. Bon, et la première, c'est la taxe carbone, et ma voisine de droite en sait quelque chose, puisque lorsqu'elle était ma tutelle, hein, en tant que ministre, hein, moi, je ramais en permanence pour dire le problème, c'est pas la taxe carbone, c'est la redistribution de la taxe carbone. Et tous les ministres en voulaient leur morceau, du reste, hein, Delphine comme les autres. Bon. Donc, de fait, moi, je pense que il y a un problème très important, c'est qu'il faut veiller à ce que les mesures écologiques, que ce soit des mesures d'atténuation ou des mesures d'adaptation, aient effectivement des critères d'équité sociale. Je voulais dire quand même sur le backlash un point, parce que c'était la question qui était posée. Alors moi, je préfère parler de rétro-pédalage que de backlash, parce que bon, soit on parle anglais, soit on parle français, mais on n'est pas forcé de mélanger les deux. Bon. Moi, je pense que le rétro-pédalage qu'on vit en ce moment, il est d'abord provoqué par le fait qu'on rentre dans le dur, dans les transitions. Et ça, moi, je pense qu'il faut le répéter. Hein. Lorsqu'on était encore au Grenelle de l'environnement, c'est sûr que c'était facile de faire des grandes discussions parce qu'on ne savait pas ce que ça allait être. Bon. Maintenant, on est rentré dans la transition, il faut la gérer, et cette transition, elle est dure. Alors, il y a deux grands volets, le carbone fossile et le carbone vivant. Sur le carbone fossile, on est en train de vivre une mutation totale du système énergétique. On bascule des énergies de stock, les fossiles, la biomasse, vers des énergies de flux, le soleil, le vent, un peu de flux hydraulique. Bon. Pour faire cette bascule, évidemment, il faut investir. Mais il faut surtout désinvestir. Ce qui va faire baisser les émissions, ce n'est pas de rajouter des nouveaux modes de production, c'est d'enlever les fossiles. Et donc, on est face à un énorme problème de restructuration industrielle, de restructuration sociale. Et on le vit tous les jours. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai introduit le grand débat sur la première usine de batterie dans le nord de la France, à Vouvrain. Ça vaut, le machin, il vaut 2 milliards une usine. Okay. Et tous les gens disent, le coût de la transition énergétique, c'est les milliards qu'on met dans les usines de batterie. Mais non! Ça, c'est de l'investissement. Si vous raisonnez en dynamique, c'est pas un coût, c'est moteur pour l'économie. Le vrai coût, c'est les 200 fonderies qui, en France, travaillent aujourd'hui à 80% pour le moteur thermique. Comment on va faire? Que vont devenir les ouvriers? Comment est-ce qu'on va reconvertir ces activités? Donc, c'est ça, la transition sur le carbone fossile. C'est que c'est une immense transformation. Et donc, non seulement il faut que, effectivement, les leviers de politique environnementale soient équitables en redistribution, mais il faut surtout accompagner et anticiper toutes ces transformations. Deux, le carbone vivant et l'agriculture. Je vais être très rapide parce que j'ai déjà sans doute utilisé mon quota de temps de parole. Non? Bon, ça va. Non, parce que j'ai 20 minutes. Bon, ça va. Tant pis pour toi, Delphine. Hein. Bon. Alors, sur le carbone vivant, on a un énorme problème. Parce que, en gros, sans rentrer dans les détails, le carbone vivant, c'est quoi? C'est le cycle du carbone, hein, qui est totalement déstabilisé par nos activités et en particulier par les méthodes d'agriculture qu'on a développées, par la façon dont on gère la forêt, par la façon dont on gère les océans. Tout ça, ça fait un quart des émissions mondiales de gaz à effet de serre, et en France, 20%. Et donc, il faut agir sur les leviers, principalement les leviers, l'agriculture, et principalement la gestion de la forêt et des océans. Juste, focalisons-nous sur l'agriculture. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les méthodes d'agriculture industrialisées, conventionnelles, qu'on a développées depuis, en gros, 1950 en Europe, un peu avant aux États-Unis, sont à bout de souffle. Elles sont à bout de souffle. Et chaque année qui passe, avec les impacts du réchauffement climatique, on se rend compte que ces méthodes d'agriculture spécialisées, monoculture, affaiblissement du matériel génétique, enfin, je vous fais pas la totale, Delphine en parlera beaucoup mieux que moi, elles sont à bout de souffle. Les rendements agricoles en France ne sont plus à la hausse. Le rendement du blé, la hausse des rendements du blé, ça date d'il y a maintenant presque 20 ans, ça s'est arrêté. Et sur le blé dur, on baisse, parce qu'on les fait... Donc, le vrai problème aujourd'hui sur la transition agricole, et on voit bien que ça rejoint exactement ce que tu disais sur la représentativité des corps intermédiaires, Vous avez une minorité de en gros la FNSEA pour faire rapide, hein, qui représente l'agriculture d'hier, un nombre très limité d'agriculteurs, et énormément de petites innovations dans tous les sens d'agroécologie, etc., qui sont l'agriculture de demain. Si vous voulez. Et donc on est aussi là dans un problème de transition, de reconversion de tout un système, et c'est effectivement traumatisant, hein, pour les agriculteurs qui sont installés il y a 10 ans sur un autre modèle, si vous voulez. Bon, ça, c'est très important. Je voudrais terminer sur un point, sur le carbone vivant. Vous savez, traditionnellement, en agriculture, et du reste, tu as repris la distinction, le climat, on distingue l'atténuation, réduction des émissions, l'adaptation, hein, résilience par rapport aux impacts du réchauffement climatique. Sur le carbone vivant, cette distinction n'a pas de sens. Si on veut effectivement conduire correctement la transition agricole, il faut partir des impacts du réchauffement climatique sur les systèmes agricoles. Et parce que tous les producteurs agricoles subissent ces impacts de plus en plus, et à partir de ces impacts, conduire des politiques d'adaptation, de résilience. Et au miracle, on se rend compte que c'est les systèmes agricoles qui sont résilients par rapport aux impacts du réchauffement climatique ne sont pas ceux dont on a hérité, mais ce sont des systèmes basés plus sur l'utilisation de la diversité du vivant, c'est-à-dire l'agroécologie, et ce sont ces systèmes qui également permettent de limiter les émissions de gaz spécifiques, de gaz à effet de serre spécifiques à l'agriculture, et surtout d'améliorer, de protéger le stockage du carbone dans les sols agricoles qui sont vivants. C'est la même chose sur la forêt, mais je sens que là, il faut vraiment que je passe la main à ma voisine de droite.
Merci beaucoup, Christian. Merci. Merci. Oui, Delphine, je pense que dans la droite ligne de ce que vient de dire Christian sur le fait d'entrer dans le dur, la question des renoncements, le fait qu'il faut désinvestir, c'est des points essentiels parce qu'on a toujours vécu dans l'idée... c'est Dominique Méda qui le disait très bien, d'associer le progrès et la croissance. Et au fond, nous devons changer notre image, je ne sais pas si je vais dire de ce qu'est le progrès, mais en tout cas de la possibilité d'imaginer un avenir en commun. Donc là-dessus, que pourrais-tu nous dire ? Et par ailleurs, j'aimerais, toi qui as beaucoup parlé, qui t'es beaucoup engagé sur les questions de nature, qui a parlé aussi d'esthétique, de beauté en ce qui concerne l'écologie, que tu nous dises s'il n'y a pas aussi une difficulté à intégrer les enjeux de nature dans nos institutions. Il me semble que le backlash signifie quelque chose sur la construction de politiques publiques qui concernent les êtres humains, mais il y a aussi cette question du vivant, cette question de l'intégration de ceux qui ne sont pas des êtres humains en politique, dans la démocratie, et je pense que ça peut expliquer également un des enjeux de backlash. On a toujours pensé la nature sous l'angle du dualisme, artifice, préservation, nature-culture bien sûr, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi cette difficulté sur l'intégration des enjeux de nature dans notre manière de faire société aujourd'hui ?
Alors, la réponse est oui, mais je voudrais revenir sur la situation dans laquelle on est, en fait. Donc, sur cette notion de backlash. Pour inviter à ne pas confondre le rejet des écologistes avec le rejet de l'écologie et de cette cause dans le pays, dans le territoire rural, par exemple, dont je suis élue. Donc, je pense que c'est important, par rapport à ce que disait Eric, qu'on s'arrête un instant pour bien décortiquer la situation dans laquelle on est, pour sortir du défaitisme ambiant. Voilà. La situation, si on la résume de façon un peu caricaturale et simplifiée, c'est qu'il y a un Donald Trump qui illustre ce qu'on a en face de nous, c'est-à-dire un camp des destructeurs qui a maintenant parfaitement intégré la réalité des limites planétaires et qui déclenche la guerre mondiale à tout ce que nous voulons et à tout ce que nous représentons. Et qui dit, grosso modo, que le mode de vie du XXe siècle n'est pas négociable et qu'il n'y a plus de compromis possible. Et c'est ce que vous avez dit les uns les autres sur le durcissement y compris de la position des entreprises en France ou qu'on voit dans toute l'Europe, etc., c'est que les compromis avec les trucs foireux sur, vous savez, en telle année, on aura baissé les émissions de gaz à effet de serre de tant de pourcents, etc., comme tu l'as très bien dit, maintenant, on est dans le dur. Et donc maintenant, il faut faire des choix. Et c'est soit continuer la destruction, soit la décroissance. C'est ça la situation dans laquelle on est. Et donc, quels sont les ingrédients du backlash ? Il y a ceux que tu as évoqués. Je voudrais en ajouter d'autres. Il y a d'abord, moi, je crois profondément qu'en fait, il y a le mécanisme du déni de l'effondrement. C'est-à-dire que les opinions publiques à l'échelle internationale et dans notre pays sont travaillées en profondeur par la réalité des canicules, des inondations, de tout ce que vous voulez, de l'explosion du nombre de maladies environnementales, etc. Les gens ne sont pas aveugles. Mais comme il n'y a pas d'issue assumée, portée, proposée, ça se transforme dans la mécanique du déni, et ça finit avec le discours d'investiture de Donald Trump qui explique qu'on peut continuer à détruire la planète Terre et qu'on va aller sur Mars. C'est ça, en fait. Il y a une cohérence idéologique du Trumpisme, et y compris dans le lien entre la xénophobie et la négation du principal problème commun à l'ensemble de l'humanité, qu'est le changement climatique et l'effondrement de la biodiversité. Donc, cette dimension de ce qui travaille en profondeur les peuples me paraît quelque chose de fondamental. Et là-dessus, il y a des causes politiques qui ensuite transforme et ouvre la possibilité d'une structuration politique négative contre l'écologie, ce qu'on a vu notamment aux Pays-Bas avec l'émergence d'un parti d'extrême droite qui est fondé que sur le rejet de l'écologie, ce qui est en quelque sorte le miroir de notre histoire collective, les uns et les autres, qu'elle soit très ancienne ou qu'elle soit plus récente, c'est-à-dire d'une structuration positive, d'une structuration politique positive par l'écologie. Là, maintenant, on a une structuration négative. Et dans ce qui permet ça, il y a ce qui est très bien raconté dans le livre d'Éric sur une écologie qui fondamentalement n'a pas voulu mener de vraies politiques publiques écologiques courageuses et qui donc s'est enlisée dans la bureaucratie, la technocratie, la mise à l'index des comportements individuels, la stigmatisation des catégories populaires, etc. Il y a aussi quand même une déposition politique de l'écologie politique française profondément marginalisante et profondément à côté de la plaque, notamment sur les questions régaliennes, qui est, à mon sens, une question de crédibilité centrale quand on s'adresse aux catégories populaires. Et donc, on est aujourd'hui dans cette situation où, en fait, les échecs électoraux des écologistes, que ce soit à l'élection présidentielle, moins de 5%, que ce soit aux élections européennes, un tout petit peu plus de 5%, rétroagissent sur l'ensemble du rapport de force sur tous les sujets, les 43 reculs, etc., etc. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus aucun potentiel dans la société ? Je pense exactement l'inverse. Voilà. Et ce qui s'est passé cet été autour de la loi du plomb le confirme. Il y a un potentiel considérable dans la société française. Il y a un énorme écart entre cette représentation du paysage politique et les réalités de terrain, y compris de ce qu'on voit dans les entreprises, dans les collectivités territoriales, dans ce qui se passe dans les associations, etc. Donc c'est à nous de bien décortiquer, en fait, quels sont les ingrédients de ce backlash et pourquoi ça prend, pour y apporter une réponse. Et de ce point de vue-là, si je reboucle avec ce que je disais sur Donald Trump, eh ben, quand on a Donald Trump en face de soi, si on fait comme les démocrates américains à incarner le maintien du système actuel tel qu'il est aujourd'hui, eh ben, on perd les élections et c'est les Trumpistes qui gagnent. Donc la question qui est posée, c'est comment nous, on incarne une rupture par rapport au système actuel qui apporte une meilleure qualité de vie et une sécurité au sens de la santé, au sens de la sécurité physique dans la vie des gens.
Merci beaucoup à tous les quatre. Maintenant, mais tu vas répondre dans la deuxième partie de cette table ronde. Donc là, je voudrais vous donc passer à cette deuxième partie de table ronde qui est vraiment sur reprendre l'initiative une fois que chacun d'entre vous a décrit au fond ce qu'il pense de la situation, de sa gravité, du fait qu'on entre dans le dur et que ça peut expliquer ce sentiment de retour en arrière. Les questions seront après. Et donc je vais vous repasser la parole avec l'idée que à partir de ce que vous avez décrit, donc de cette situation où il y a en fait, je reprends ce que disait Delphine, il y a un énorme potentiel pour l'écologie, mais aujourd'hui il n'y a pas d'incarnation sur ce sujet des écologistes et de ce qu'ils peuvent porter au pouvoir. Je retiens ce que tu disais sur le fait d'associer aussi l'écologie aux enjeux régaliens dans un moment où les classes populaires et la société cherchent des protections et veulent être convaincues qu'elle va pouvoir vivre mieux. Donc là-dessus, au fond, des propositions, des axes d'analyse. Ce qui serait bien, c'est de pas avoir un catalogue de propositions comme dans un programme de parti politique, mais plutôt comment est-ce qu'on associe au fond la transformation du langage, la manière de faire autrement les politiques publiques par rapport à ce que tu disais, Eric, par exemple, et puis les différentes échelles. Sentez-vous libre, mais pas un catalogue de mesures comme dans un programme de parti politique. Tu veux commencer, Eric? Oui, si tu veux, on peut. Mais enfin, on vient d'entendre Delphine, donc...
Ok, elle prend des notes. Elle prépare son intervention. Alors, du coup, ça me permet de dire que je suis tout à fait d'accord, et c'est un point que j'ai pas dit, sur le fait que s'il y a un rejet de l'écologisme dans la façon dont elle s'exprime dans l'espace public à travers les écologistes que nous sommes, il n'y a en effet pas de rejet de l'écologie. Les études le prouvent, y compris il y a des enquêtes en qualité très très intéressante avec des gens qui, il n'y a pas de refus, il y a peu de climato-scepticisme quand on fait de vraies enquêtes, c'est vraiment marginal, c'est 10% de la population, et quand on donne des chiffres assez élevés, en réalité c'est, comme l'a dit très bien Delphine, c'est juste des gens qui ne peuvent pas intégrer ce facteur-là parce que c'est ce qu'on a appelé les budgets contraints, mais c'est aussi c'est des vies tellement contraintes qu'ils ne peuvent pas prendre ça en charge. Mais c'est pas des gens qui sont dans le déni, et les sociologues de la ruralité racontent des scènes dans des endroits où on vote RN, et où quand même les jeunes disent aux vieux, bon ben les terres vous les avez bien polluées, hein. Et donc la loi Dupont l'a montré, les gens tout ça savent. Mais la façon dont c'est formulé, l'offre politique, quelqu'un a dit ça l'autre jour, il y a un problème d'offre politique de l'écologie. C'est vraiment du côté de l'offre que ça pêche. Alors ma proposition, c'est de dire qu'il faut arrêter avec la question des modes de vie individuels. Donc j'aurais tendance à dire les modes de vie, mais bon, en tout cas, la question des petits gestes, des comportements, de dire aux gens, c'est chacun, j'ai entendu ça encore l'autre jour, chacun dans sa vie, à chaque minute, doit se demander, etc. Moi, je pense qu'il faut arrêter. C'est contre-productif. C'est encore une fois un truc de bobo qui a les moyens de se dire, je vais acheter bio, je vais prendre le train alors que c'est 3 fois plus cher. Quand on est dans des budgets contraints, on ne peut pas. Et donc, en fait, on bloque le système. Et il y a d'autant moins de raisons de le faire que c'est pas là qu'on peut changer. Personne avec ses petits bras ne pourra changer les bilans carbone de nos vies. Si on est en train d'émettre, si on émet le matin quand on se lève, en allumant le chauffage, en prenant la voiture, etc., on l'a pas choisi. C'est pas une pulsion génétique, c'est pas notre cerveau reptilien ou quoi que ce soit. Non, mais il y a des thèses comme ça. Hein. C'est qu'on est on vit dans des systèmes sociotechniques, c'est le terme qui est donné, qui fait qu'on ne peut pas faire autrement qu'émettre du CO2. Et donc, ce qu'il faut changer, c'est pas nos comportements, c'est ces systèmes qui nous mettent dans cette situation-là. Et ces systèmes-là, ils ont été construits. Ils n'ont pas été réclamés. Les gens ne rêvaient pas d'avoir des SUV il y a 50 ans ou d'avoir des pavillons individuels il y a 150 ans. Donc, je vais raconter l'histoire des tramways parce que je l'adore. Je l'ai emprunté donc au livre de Bonneuil et Fressoz. Les grandes villes européennes et des États-Unis jusqu'aux années 50 étaient desservies très bien par un maillage de tramways très serré. Et d'ailleurs, aussi pour les chemins de fer, on a tous vu cette carte de France avec les petites lignes, puis comment ça s'est peu à peu raréfié. Et les tramways ont représenté un obstacle pour l'industrie automobile. Et c'était tellement conscientisé par cette industrie automobile qu'elle a mené des actions juridiques aux États-Unis, c'est documenté. Et elle a mené des actions juridiques pour augmenter les les péages que les compagnies de tramway payaient. Puis finalement, ils ont fini par racheter les compagnies de tramway pour les démanteler. Et donc, à ce moment-là, vous n'aviez plus d'autre solution que de prendre la voiture. Donc, prendre la voiture, c'est ni un choix, c'est ni une envie irrépressible, c'est un système. Et plus généralement, la pollution, c'est pas un accident malheureux, ni une espèce de destinée comme ça, tragique de l'humanité, c'est un rapport de pouvoir. Il y a ceux qui se retrouvent en situation de ne pas pouvoir faire autrement que d'émettre du CO2. Je le réduis volontairement sur la question de du réchauffement climatique. Et il y a ceux qui organisent un monde dans lequel on est obligé d'émettre du CO2 et ça leur apporte de l'argent. Parce que tous ces systèmes sociotechniques, c'est chaque fois des entreprises. Et donc là, on retrouve exactement ce que disait Julie, par exemple. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont à des endroits où ils captent des rentes, ils n'ont pas du tout envie de les lâcher. Donc avec ces rentes, évidemment, ça leur donne des moyens pour occuper les corps intermédiaires, pour exister, et pour faire croire que c'est un coup classique de la droite, hein, de naturaliser. Non mais c'est comme ça, les gens veulent des SUV, les gens veulent bouffer de la viande, non, rien de tout ça naturel, tout ça a été construit, donc tout ça peut se déconstruire, mais comme l'a dit Delphine et aussi Christiane Pertuis, c'est évidemment un énorme travail et ça va coûter de l'argent. Il y a des rapports qui ont été faits là-dessus qui le disent. Mais je veux vraiment insister sur ce point-là. Les petits gestes, il y a eu un calcul qui avait été fait par Carbon 4 de Jean Covici, mais le SGPE arrive à peu près au même chiffre. L'effort individuel des particuliers, c'est 20 à 25% en grand maximum. Voilà, donc faisons les 80%. Et ça, c'est au niveau de l'État. Enfin, c'est l'État qui agit. Alors, c'est l'État et les entreprises. Donc, ça nécessite des coordinations, des planifications, une mise au travail de tout le monde. Moi, je pense que ça passe par une démarchandisation d'une partie de l'activité économique. Parce que la marchandisation fait que les acteurs économiques seront toujours tentés d'externaliser. C'est les externalités négatives, donc d'externaliser les pollutions pour pas les prendre en charge, parce que c'est en externalisant qu'ils font des profits. Mais je pense que les entreprises ont leur place et qu'il y a un équilibre à trouver entre le marché et ce qui peut être de l'ordre du secteur public ou d'un tiers secteur associatif, des communs, des gratuits, etc. En prenant par exemple l'exemple du logement avec le HLM, et il y a des gens qui réfléchissent, donc j'arrive à une solution concrète et après je lâche le micro. Il y a des, notamment TNI, qui était d'ailleurs représenté tout à l'heure dans une autre réunion, donc Transport Environnement, qui travaille sur un scénario d'automobile à loyer modéré, sur le modèle des habitations à loyer modéré, les HLM, qui sont une part du système locatif qui est hors marché. Et l'idée, ça serait que l'État achète jusqu'à 1, 2, 3, peut-être millions de voitures étalées sur 5 ou 10 ans électriques aux entreprises, qui a, du coup lui donne une puissance, ça devient un outil de politique industrielle, parce que du coup il peut dire aux entreprises, vous faites des voitures petites, pas chères, vous arrêtez les options, vous faites des voitures réparables. Donc tout un tas de choses qui ont été supprimées par les constructeurs, parce que là encore, ils fabriquent du profit. Hein. Les voitures non réparables, c'est plus d'argent. Les voitures plus lourdes, plus chères, c'est plus de profit. Donc l'État achèterait des voitures et il y aurait des agences locales de mobilité qui existent déjà en plus. C'est des structures qui sont déjà existantes mais qui du coup devraient être durcies et qui pourraient, en s'appuyant sur le réseau des aides sociales et puis aussi en mettant, c'est intéressant, ça pourrait faire travailler ensemble les concessionnaires, enfin les techniciens de la voiture et les techniciens du social, et qui, tout comme on loue des appartements à des gens qui sous condition de ressources, eh ben on louerait des voitures. Alors ça existe déjà, mais c'est préfiguré à travers le leasing social, mais dont vous avez peut-être déjà entendu parler, mais qui est pas du tout conçu comme un service public. Voilà. Donc ça, c'est une proposition. Agir au niveau des systèmes sociotechniques, y compris parfois, alors par exemple pour la voiture, réduire le poids des voitures, etc., mais y compris parfois en allant jusqu'à démarchandiser une partie de ce segment-là. Voilà.
Oui, merci beaucoup, Eric. Merci. J'ai vu qu'il y avait un atelier à Cluny sur « Peut-on dialoguer autour de la bagnole ?»
C'était tout à l'heure.
Ouais. Julia, je trouve que dans ton intervention, c'était assez passionnant ce que tu racontais des nouvelles alliances possibles entre des entrepreneurs qui sont mal représentés par le MEDEF, des députés qui peuvent et des sénateurs qui peuvent tout à fait ne pas être de gauche.
Oh non, sénateurs de gauche.
Et des citoyens engagés et des ONG. Il y avait quelque chose d'intéressant sur les nouvelles alliances, à mon avis, qu'il faut trouver, parce que vous avez été plusieurs à signaler la difficulté de représenter les agriculteurs, les entrepreneurs. On peut se dire aussi que certains citoyens, aujourd'hui, se sentent très mal représentés. Donc, comment est-ce qu'on surmonte ce défaut de représentation ? Est-ce que c'est par ces nouvelles alliances, justement ?
Ouais, en fait, c'était intéressant pour moi de t'écouter parce que je trouve qu'il n'y a pas grand monde, en tout cas dans cette salle, qui a de difficultés à imaginer comment ça serait nos vies si c'était compatible avec les limites planétaires. Enfin, moi, même en termes de production de vêtements, je vois à quoi ça ressemblerait. Enfin, aujourd'hui, les Français achètent en moyenne une quarantaine de vêtements neufs par an. Il faudrait qu'on réduise à 5, quoi, pour être... Donc on voit à quoi ça correspond et on voit, même sur la démarchandisation et tout, on voit qu'il y a des secteurs effectivement qui doivent être démarchandisés, enfin qu'il faudrait qu'il y ait de la planification, etc. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on n'est pas du tout sur cette trajectoire-là. Et donc la question, et on n'est vraiment pas prêt d'être sur cette trajectoire. Et ce qui nous arrive dessus est catastrophique. Et qui a dit ça ? Enfin, je me rappelle plus. Mais globalement, c'est l'extrême droite qui arrive au pouvoir, et c'est des milliardaires d'extrême droite qui essayent de produire de la désinformation, de la dédémocratie, et qui ont comme ennemi globalement la démocratie et l'écologie, quoi. Donc, enfin, c'est ça qui nous arrive dessus. Et effectivement, du coup. Nos manières de penser l'avenir sont assez impuissantes parce que ce n'est pas la loi de celui qui a raison, c'est la loi du plus fort qui est en train de s'exercer. Et ça s'exerce à la fois au niveau national, mais ça s'exerce au niveau international. Donc c'est extrêmement difficile pour la France de se projeter même dans une question post-croissance ou quoi que ce soit parce qu'on est à l'heure des prédateurs et il y a des pays autour de nous qui attendent de nous manger, littéralement. Et ça marche aussi au niveau national, hein. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a aussi une partie de l'économie qui est en train de se faire manger par ce qui se passe. Cette loi fast fashion, elle arrive aussi parce que il y a une partie de l'économie qui est en train de se faire manger, enfin, qui est à moitié dévorée déjà par la fast fashion. Et donc, je voulais dire ça parce que ça me faisait penser tout à l'heure quand vous disiez « Ah, il faut que les lois, on tienne compte des classes populaires quand on les fait. Il faut aussi qu'on tienne compte de la compétitivité des entreprises. Il faut qu'on choisisse les secteurs pour lesquels il faut de la compétitivité. » Mais là, ce qui a été très instrumentalisé par les libertariens globalement et le monde entrepreneurial qui veut aucune norme, c'est... CSRD, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette régulation, qui est une régulation très contraignante sur les entreprises. Et c'est vrai que quand tu es une entreprise et que tu te penches sur la régulation, tu te dis qu'effectivement, ça n'a pas été fait par des chefs d'entreprise. C'est effectivement très décourageant pour les chefs d'entreprise qui s'y sont confrontés. Moi-même, je n'y suis pas confrontée parce que j'ai une toute petite boîte. Mais quand j'ai parlé avec des gens des grandes boîtes, ils m'ont dit « Mais tu n'imagines pas le délire que c'est de faire ça ». Et je pense qu'il y a aussi une écologie qui s'est faite contre les entreprises. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réguler les entreprises. Il faut réguler les entreprises, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut réguler les secteurs si on veut que ça aille dans le bon sens. Mais il faut que ça les oriente dans la bonne direction. Et pas que rien que le fait de remplir les informations qui sont demandées soit un calvaire administratif. Et donc en fait, moi, ce que je vois, c'est que il y a des gens qui surfent sur peut-être une mauvaise articulation de la loi avec le quotidien des entreprises, comme il y a des gens qui surfent avec la taxe carbone pour provoquer un mouvement anti-écolo, et le mouvement anti-écolo dans les entreprises qui disent, vous voyez bien l'écologie, ils vont couler nos entreprises, ils vont couler notre pays. C'est ça le discours actuellement. Donc, et qu'il y a une partie de vrai. Enfin, effectivement, hein, si on applique des normes écologiques extrêmement contraintes seulement aux entreprises sur notre territoire et qu'elles ne sont pas appliquées aux entreprises qui importent sur notre territoire, effectivement, on coule aussi notre économie. Donc il nous faut, je crois, en tout cas, de la même manière qu'on tient compte des classes populaires, il nous faut tenir compte aussi de la compétitivité de notre économie quand on met en place des normes, compétitivité à l'intérieur et compétitivité avec l'endroit dans lequel on est, et plus largement, et il nous faut tenir compte de... il nous faut quand même il faut rester un pays puissant avec ce qui se passe en ce moment. On ne peut pas être un pays qui s'affaiblit. Et c'est extrêmement difficile de jongler avec, entre les questions écologiques et les questions de géopolitiques. Et... Oh, Delphine, elle note plein de trucs. Laisse tomber. Je vais juste répondre sur qu'est-ce qu'on peut faire à court terme. Moi, j'avoue que je suis pas, je ne sais pas. Je sais juste que moi, je sais ce que j'essaye de faire. Je me rends compte que j'ai identifié cette question de parfois l'incompatibilité entre la règle écolo et la réalité des entreprises. Et ce que j'essaie de me battre, c'est pour que nous pousser des lois qui favorisent à la fois l'économie et l'écologie. Et en fait. C'est un peu l'intérêt de cette loi fast fashion, c'est qu'elle a été construite avec des mouvements patronaux et du coup, son applicabilité, tout ça, enfin, toutes ces questions-là ont été étudiées avant qu'elles soient mises en place et il ne pourra pas y avoir une levée de bouclier d'entreprise. Ils disent « Ah, mais c'est trop compliqué parce que nous-mêmes, entreprises, en fait, on a réfléchi et testé sur nous comment ça pourrait passer. » Donc je crois à cette alliance-là et je crois aussi qu'il faut pousser... Enfin, là, je pense que tout le monde en France est assez catastrophé de ce qui se passe au niveau de la classe politique, mais en fait, il se passe la même chose avec les partenaires sociaux. Enfin, je veux dire, le MEDEF refuse de négocier quoi que ce soit. Enfin, personne ne fait un pas dans la direction de l'autre. Et je crois que ce qu'on doit essayer de faire, nous, en tout cas, c'est de faire émerger un mouvement d'entreprise, justement, qui permet de faire des lois écolo qui soient compatibles avec notre compétitivité. Et un mouvement d'entreprise aussi qui permette du dialogue social dans tous les débats de la société. Et donc pour ça, c'est quand même un vaste travail auquel on s'attelle. Mais nous, ce qu'on veut, c'est de devenir le nouveau MEDEF. C'est-à-dire de montrer que le MEDEF est devenu... je sais que c'est hyper... Il déteste quand Patrick Martin, il pète un câble quand on dit ça. Ah mais putain, mais c'est qui? C'est personne, en fait. Calme-toi, Patrick. C'est quoi ton prénom? C'est Patrick ou c'est Martin? Pas du tout, je lui dis pas ça. Et du coup... En fait, il y a quand même quelque chose qui est possible. C'est parce que quand même, l'intérêt du monde économique, c'est qu'il doit être rationnel. Parce que, enfin, on peut pas juste dire, ben, en fait, ça n'existe pas. Parce que, bon, du coup, la réalité du marché nous rattrape. Et donc, plus le MEDEF se radicalise et en fait prend des positions qui desserrent une partie importante de ses membres, et plus il prend des positions qui nient la réalité, plus il perd en crédibilité. Et nous, notre rôle, c'est d'être le nouveau représentant crédible. Et je peux vous donner l'exemple simple. Moi, je suis catastrophée d'un discours patronal qui vise à détruire les services publics, qui vise à définancer les services publics. C'est une catastrophe pour la compétitivité de nos entreprises à moyen et long terme. Les seules entreprises que ça sert, c'est les entreprises qui vont pouvoir remplacer les services publics. Donc, ok, si vous êtes une énorme boîte de pharma et ou alors vous avez mis beaucoup d'argent dans les écoles privées, là, vous allez vous en sortir. Mais sinon, si vous êtes une entreprise normale, une petite boîte, si vos salariés ne peuvent pas se soigner, si les transports en commun ne marchent pas, si vos salariés ne trouvent pas de place en crèche, c'est une catastrophe économique pour vos entreprises. Donc voilà, ça c'est ce genre de discours qu'il faut qu'on arrive à porter et qu'on arrive à porter haut, non seulement pour que les décideurs politiques et les gens, en tout cas l'opinion publique s'en emparent, mais pour que le monde de l'entreprise entende aussi un autre discours et puisse choisir entre le discours globalement anti-Tag Zuckman et le discours de compromis et d'avancer ensemble pour une économie prospère. Voilà.
Christian, est-ce que tu... Je n'ose te dire les questions que j'aimerais te poser, mais...
je vais essayer de répondre quand même. Oui.
Non, je trouve que beaucoup de choses ont été dites sur le nouveau modèle économique, sur la question du protectionnisme qu'il faudrait organiser pour nous permettre d'être une sorte de puissance verte, maintenir nos valeurs, sur la transformation de ce qu'il faut faire à l'échelle européenne. Cette taxe carbone aux frontières, est-ce que tu y crois? Comment est-ce qu'on fait pour associer les questions environnementales et la transformation du modèle commercial? Ça me semble être un point aussi assez fondamental en termes de pistes. Et tu peux ne pas répondre, hein, bien sûr.
Si, non, je vais répondre et après je dirai un autre truc. Et là, je vais faire dans l'autre sens. Je vais commencer par répondre pour faire le bon élève. Bon. C'est sûr que si on a une inflation réglementaire dans tous les sens... Pour l'écologie, ça ne va pas le faire. C'est sûr que il faut trouver des modèles économiques nouveaux et pas du tout renvoyer en permanence au comportement individuel. Moi, je pense que c'est très important, notamment sur la sobriété. Bon, il faut trouver des modèles économiques de la sobriété et il faut voir que derrière la question de la sobriété, il y a d'abord des questions d'inégalité. Vous voyez, donc c'est pas bon. Donc ça, c'est sûr. Bon. Ensuite, on voit bien que, en gros, pour faire simple, dans le monde aujourd'hui, vous avez un mec qui s'appelle Donald Trump qui met son pays dans une impasse totale. Impasse totale. C'est-à-dire que la stratégie de Trump de retrouver une espèce de prospérité à base d'énergie fossile et de protectionnisme... Même dans les années 30, ça marchait pas très bien. Alors, comment ça peut marcher aujourd'hui? Donc, mais n'oubliez pas ce qui se passe en face. Vous avez la Chine, vous avez des pays asiatiques qui sont en train de totalement métamorphoser les conditions de la transition énergétique. Et la Chine est, en gros, aujourd'hui, en train de se hisser au rang de premier fournisseur mondial des biens, d'équipements et des métaux critiques de la transition. Et elle le fait... pas du tout en utilisant souvent ce qu'on imagine le faible coût du travail. Non, elle le fait parce qu'elle investit massivement avant nous. Donc, elle reprend, par exemple, si on prend le photovoltaïque, c'est quand même invraisemblable. L'Europe était en avance, hein, et le Japon était en avance, hein, sur le photovoltaïque jusque vers 2005-2006. Et puis, comme nous, on n'a pas investi. Bon, et c'est comme ça dans beaucoup de choses. Donc, si on continue comme ça, ça va se passer aussi, hein, sur des nouveaux credos. Donc, c'est ça un peu la situation dans laquelle on est au niveau européen. Bon. Alors, je fais une petite parenthèse parce que je voulais le dire et puis après je viendrai sur la question de la taxe carbone. Moi, ce qui m'effraie, c'est que quand je vois le débat politique en France, et surtout depuis les quelques mois, enfin en gros depuis le début du deuxième quinquennat de Macron, moi, ça me fait penser vraiment à ce qui se passe aux États-Unis. C'est-à-dire que vous avez les partis de droite classiques qui sont totalement imprégnés par l'extrême droite sur toutes les questions environnementales, alors avec des trucs absolument ahurissants comme le moratoire sur les énergies renouvelables. C'est quand même... faut le faire. Hein. Bon. Mais à gauche, comment est-ce qu'on porte l'écologie à gauche aujourd'hui? Excuse-moi, Delphine, hein, mais moi, je ne les entends pas. Et j'ai l'impression que de plus en plus, il y a une tentation à gauche de ramener l'écologie comme un espèce de comme si c'était soluble dans la question sociale. Vous voyez ? Donc, c'est comme si c'était un sous-produit de la question sociale. Mais attendez, ce n'est pas du tout ça, la question. La question, c'est quoi ? C'est la résilience et c'est les risques que nous va... qu'on va devoir affronter, hein, tu l'as dit, avec la crise écologique. Et pour les entreprises, je pense que c'est comme ça qu'il faut raisonner. Il faut dire, vous avez des risques croissants. Bon. Alors, sur le plan de la taxe carbone, parce que moi, mon problème depuis 2013, c'est que sur mon front, il y a marqué taxe carbone. Mais donc, on veut toujours parler de taxe carbone. Bon. Je pense que le prix du carbone, c'est un élément d'accélération des transitions. Mais ce n'est pas un moteur de la transition. Donc, il faut effectivement avoir un système fiscal qui de plus en plus va taxer les externalités environnementales et surtout le climat. Donc il faut taxer le carbone et donner un coup aux émissions. La condition pour que ça fonctionne, elle est double. Il y a une condition numéro un dont on a parlé tout à l'heure, c'est qu'il faut redistribuer le produit de la taxe. C'est pas très compliqué. Bon, simplement, l'expérience montre que quand on propose au gouvernement, ce qui a été mon cas, une taxe carbone en disant il faut en redistribuer 35% ciblé les quatre premiers déciles, le gouvernement prend la taxe, il prend pas la redistribution. C'est exactement ce qui s'est passé en 2014. Donc évidemment, 4 ans après, dès que le prix du pétrole a augmenté, il y a eu les gilets jaunes. Donc il faut de la taxe carbone redistribuée, mais c'est pas le moteur principal. Il faut effectivement en Europe qu'on tarifie le carbone au niveau européen. Et si on veut le faire bien, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut se protéger. Il faut protéger nos frontières. C'est ça le truc. Il faut protéger nos frontières, non pas pour faire du protectionnisme, mais pour que simplement on fasse payer les émissions de CO2 sur les biens qu'on importe. Et si on veut être totalement rigoureux sur le plan économique, il faut même donner une restitution à l'exportation pour les biens qu'on exporte. Bon, ça, c'est le point essentiel. Je voudrais terminer sur un point, et ça va rejoindre un peu ce que tu as dit. Moi, je préfère le rétropédalage hein, plutôt que le backslash. Le rétropédalage de la classe politique, je le sens quand même beaucoup moins aux échelons territoriaux. À l'échelle territoriale, j'ai l'impression que la dynamique est quand même encore forte, heureusement. Hein, bon. Et j'ai l'impression que lui, et moi je suis souvent invité à faire des plans climat territoriaux, on rencontre des gens vraiment formidables. La semaine dernière, j'étais à Besançon, là j'ai passé ça pour Dominique, mais bon, il y a une dynamique incroyable sur les territoires. Bon. Et cette dynamique, elle repose sur de multiples liens entre des acteurs qui, avant de s'intéresser à l'écologie, ne travaillaient pas ensemble et ne se connaissaient pas. Et donc moi, je pense que ça, c'est véritablement... parce qu'il faut y croire. Hein. Si on veut sortir du rétropédalage, il faut y croire. Moi, j'y crois. Hein. Bon, malgré tout, moi, j'y crois. Mais ce que je crois surtout, c'est que dès qu'on pose la question du réchauffement climatique, de la biodiversité à l'échelle d'un territoire, on se rend compte que cette prise en compte de la dimension environnementale est effectivement un moyen de mettre en relation des acteurs, des milieux qui ne se connaissaient pas et qui peuvent créer des choses ensemble, nouvelles, innovantes. Et c'est peut-être à partir de ces expériences-là qu'il faut essayer de réfléchir pour construire demain une nouvelle écologie politique, y compris peut-être, rêvons un peu, hein, peut-être un jour au Parlement en France.
Merci. Merci Christian. Delphine, t'appartiens de
alors,
conclure ce deuxième échange avant que nous échangions tous ensemble.
Bon, alors deux points. Le premier, c'est que je ne peux pas avoir dans la prise de parole précédente dit qu'il y avait un problème de rapport de force et de rapport de force politique. Et en tirer la conclusion que, en fait, il faudrait que l'écologie s'efface, soit une sous-tendance de ceci ou de cela. Bon. Il faut refonder, toi tu dis recoder, en prenant le terme informatique, il faut refonder entièrement, et je vais revenir sur le pourquoi, la proposition politique de l'écologie. Et ça implique d'être candidat à l'exercice des responsabilités. Donc moi, je ne peux pas tirer dans le contexte historique et dans les circonstances historiques dans lesquelles nous sommes la conclusion de tout ce qu'on vient de dire, que la conclusion à en tirer, c'est qu'il faut s'effacer à la prochaine élection présidentielle. Il faut une candidature écologiste à l'élection présidentielle parce que sinon, tout le travail qu'on vient d'évoquer et qui est nécessaire, il n'aura pas lieu. Parce qu'il y aura la paresse de se ranger derrière tel ou tel. Ça, c'est la première chose, et je sais que ça fait débat. La deuxième, c'est qu'il y a un problème sur le programme. Parce qu'un monde où le seuil de 1,5 degré, il est déjà dépassé, c'est pas la même chose que le programme d'il y a 10 ans ou d'il y a 15 ans. Un monde qui était l'ère de la mondialisation libérale infinie, etc. C'est pas la même chose que quand on est face au capitalisme de la finitude avec un nouveau régime économique à l'échelle internationale. Un monde dans lequel le droit international issu de 1945 et tout ce que vous voulez avait du sens et un où il est bafoué tous les matins, c'est pas exactement la même chose. Et une situation dans laquelle tendanciellement, on a déjà la guerre en Ukraine, mais il y a désormais un pacte des autocrates structuré à l'échelle internationale et qui prépare la guerre mondiale de l'effondrement. C'est pas tout à fait la même chose qu'un monde qui, il y avait effectivement un certain nombre de guerres, mais c'était quand même pas la même chose que la situation dans laquelle on est. Donc c'est sur le fond, en fait, qu'il faut concevoir un programme pour les temps d'aujourd'hui. Pas pour les temps d'hier. Ou pas tel qu'on voyait la transformation écologique il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. On n'est plus dans la même situation. Ça, c'est la première remarque. La deuxième, c'est qu'après, il y a une question sur, du coup, comment on embarque les gens, comment on s'adresse à tout le monde et pas juste à un petit public militant. Parce que c'est ça la question, c'est de s'adresser à tout le monde. Et là, il y a trois pistes que je voudrais évoquer. La première, c'est la question centrale de la santé. C'est pas un hasard ce qui s'est passé sur la loi du plomb, si c'est sur la question de la santé que ça s'est passé. Avec ce que tu disais, Lucille, c'est-à-dire des alliances inédites, la Ligue contre le cancer, le Conseil national de l'ordre des médecins. Vous voyez, bon. Et avec d'ailleurs, au travers de ce qui s'est passé, toute la question qui était celle du rapport de la démocratie à la science, hein, qui est une question évidemment centrale dans la situation mondiale et française actuelle. Le deuxième, c'est l'enjeu de la sécurité. De la sécurité au sens physique du terme, face aux canicules, aux inondations, etc., mais même plus profondément, l'écologie comme stratégie de défense, par rapport à ce que tu disais. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, dans la situation internationale dans laquelle nous sommes, nos dépendances extérieures, qui représentent la moitié du bilan carbone de la France, hein, toutes les importations, etc., sont une fragilité structurelle considérable pour nous en France, comme pour l'ensemble de l'Europe. Et donc, la question de la réduction de ces vulnérabilités, de la conquête d'une forme de sécurité ou d'autonomie sur le plan de l'énergie, de la sécurité alimentaire, enfin des choses, des vêtements, de tout ce qu'on veut, c'est une nouvelle approche. Et la troisième, c'est le sensible. On n'embarque pas plus que, je sais pas, 5 ou 8% de la population française en parlant en termes de budget carbone restant, planification, etc., etc., même si tout ça est vrai. Voilà. Et donc, ce que tu disais, Lucille, sur la dimension du sensible, de l'amour de la nature, d'une question qui est une question politique centrale complètement zappée et qui est celle du paysage et qui permet d'ailleurs pas de comprendre ce qui est en train de se passer dans des territoires comme le mien sur la question de l'éolien, c'est aussi quelque chose, à mon sens, à mettre en avant et à développer.
Merci beaucoup à tous les quatre. Et maintenant, la parole est à vous. Alors, je vais prendre trois questions. Alors, vous étiez la première, je crois. Et je sais qu'il faut, à chaque fois que vous vous passiez le micro mutuellement, donc ici, vous et derrière Guillaume. Allez-y, je vous en prie.
Oui,
est-ce que vous pouvez vous présenter aussi, dire qui vous êtes ?
Je m'appelle Aurore.
D'accord, vous êtes Aurore. Très bien.
Merci beaucoup pour vos prises de parole. Je boue un peu parce que vous avez l'air de dire qu'on vit un rétropédalage parce qu'on ferait face au dur de la transition écologique. Mais en fait, c'est factuellement faux. On n'a pas du tout commencé à transitionner. Tout le monde le dit. C'est pas du tout, c'est cosmétique. C'est anecdotique. Et même sur les territoires, vous dites, ça bouge énormément. La dynamique est merveilleuse. Mais où vous habitez? Ben, nous, on travaille sur la question de la cantine bio. Ils y sont pas. Hein. Personne n'y est au 20% de la loi Egalim. Il y en a très peu qui y sont. Ils sont trois. C'est les urbains, les bobos écolos qui volent dans les villes. Mais c'est pas du tout majorité. Ben, nous, on a les stats. Pardon. D'accord. Oui, non, sur la France. Pardon. Et donc, du coup, c'était sur cette question de... J'ai une question. Sur la transition, est-ce qu'on peut arrêter de parler de transition et se faire croire collectivement on veut aller d'un capitalisme à un capitalisme vert ? Et merci beaucoup, Delphine, pour votre dernière intervention sur... il manque un programme, en fait. Où est le programme ? Qui a eu le courage d'écrire une vraie proposition, une alternative au capitalisme qui soit viable, cohérente, désirable et qui offre une porte de sortie à toutes les populations qui ont besoin de sortir par le haut, quelque part ? Merci.
Merci beaucoup. Moi, je suis étudiante à AgroParisTech, qui je suis. Moi, j'avais une question sur le temps. On sait que le temps politique, c'est un temps court-termiste avec des échéances électorales, alors que l'écologie doit se penser dans le temps long. Donc, ma question était, est-ce que notre système est réellement fait pour prendre en compte les enjeux écologiques ? Est-ce que c'est possible d'avoir de penser le temps long en politique, et si c'est pas en politique qu'on peut le penser, où est-ce qu'on peut le penser pour prendre vraiment en compte les enjeux écologiques?
Je suis aussi étudiante à AgroParisTech. Et moi, j'avais une question sur la décroissance, parce qu'on l'a rapidement évoqué, mais on n'y a pas développé. Notamment, quel avenir pour le discours de la décroissance dans des programmes politiques ? Est-ce que c'est réellement viable ? Est-ce que ce n'est pas justement un discours qui risque de cristalliser des tensions ? Notamment parce que c'est mal évoqué, et je pense que la décroissance, on parle beaucoup du modèle économique, mais en fait on oublie toute la partie sociale, toute la partie retissée des liens, notamment avec tout le vivant, dont on évoque rapidement l'apparition tout au long de la journée lors des conférences, mais en fait on l'évoque mais on n'en parle pas. Enfin, on en parle pour dire qu'on n'en parle pas. Donc comment faire pour rendre le discours de la décroissance plus démocratique, et comment le rendre visible au cœur des programmes politiques ?
Guillaume Duval, j'ai beaucoup apprécié tout ce que vous avez pu dire les uns et les autres, mais il y a quand même une partie de la question qui est que le backlash, le coup d'arrêt, etc., c'est pas simplement les autres, c'est aussi en partie les écolos. C'est-à-dire quand on veut construire aujourd'hui du photovoltaïque, quand on veut développer des éoliennes, quand on veut développer la voiture électrique, il n'y a pas qu'à droite et chez les Trumpistes que ça rencontre des résistances très fortes. Et il faut, alors la question c'est, est-ce qu'il ne faut pas savoir un peu ce qu'on veut ? Si on veut la transition, si on veut la faire vite, il faut effectivement accepter un certain nombre de contraintes, un certain nombre de changements qui se heurtent aujourd'hui assez souvent à des arguments environnementaux, écolos, et à des mouvements écolos dans leur mise en œuvre. Je suis, alors me faites pas le procès, je connais tous les sujets sur la sobriété, le changement de comportement, etc., et je suis tout à fait pour, mais excusez-moi, mais si on ne change pas beaucoup de choses dans nos infrastructures et qu'on accepte de le faire, on n'y arrivera pas.
Merci beaucoup de ces premières questions. Qui veut répondre ? Je vous laisse libre de...
Moi, je veux bien répondre sur le fait que la transition n'aurait pas commencé. Si, la transition, elle a commencé très, très, très fortement dans l'énergie. Hein. Si vous regardez les investissements dans l'énergie qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on fait il y a 20 ans, c'est pas du tout les mêmes. Hein. C'est pas du tout les mêmes. Alors, en plus, bon, on a... Et maintenant... On a fait le plus facile, il va falloir faire le plus compliqué. Hein. C'est-à-dire, en gros, on sait fabriquer de l'électricité bas carbone, hein. On sait développer, Guillaume vient de le dire, des infrastructures énergétiques basées sur la récupération des flux éoliens et solaires, on sait le stocker, mais il va falloir faire le plus dur. Et ça, c'est l'électrification des usages sur... C'est l'électrification des usages. Là, vous entendez ? Voilà. Hein ? Et ça, c'est très traumatisant pour toutes les industries traditionnelles qui ne sont pas organisées comme ça. Donc moi, je pense que sur la transition agricole, hein, puisque je crois que vous avez parlé de la transition agricole et alimentaire, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué parce que vous avez comment dire ? Vous avez une multitude d'innovations locales et pour l'instant, il n'y a pas ce passage à l'échelle qu'il y a sur le carbone fossile. Bon. Et cette transition, elle n'est pas franco-française. Hein. Vous la trouvez partout. Bon, je vous donne juste un exemple. Hein. Moi, je suis engagé, je suis administrateur dans une ONG qui s'appelle AgriSud International, qui fait du développement agricole en zone rurale, sur les petits systèmes vivriers. Bon... dans les projets, dans les programmes qu'on a au Sénégal, ou principalement Sénégal, on va dire, hein, au centre du Sénégal, il y a encore 7 ans, on n'avait pas d'accès du tout à l'énergie. Pas du tout. Hein, c'était uniquement le. Bon. pas de réseau électrique, les générateurs électriques avec le fioul beaucoup trop cher, etc. Maintenant, grâce au photovoltaïque, on fait de l'autoconsommation collective, hein, et on amène l'électricité dans les villages, on fait de l'irrigation, des trucs qu'on pouvait pas faire avant. Donc ce phénomène, il est hyper important, et moi je pense que c'est pas la bonne façon de se dire qu'on n'a pas commencé la transition énergétique. Moi je pense qu'on est dedans, et que plus on va être dedans, plus on va découvrir des tensions, des conflits, et c'est pas un long fleuve tranquille, c'est justement, ça pose des tas de questions. Bon, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses.
Merci, Christian. Sur la question du temps, de la temporalité, Eric, oui. Mais Delphine, non, tu...
Ok. Parce qu'il y a deux hommes qui parlent d'abord, donc, ok. Bah, on essaie de faire une alternance. Ok. Deux mots. Donc, le temps long, c'est la question de la démocratie, parce que vous avez dit le temps politique, mais c'est le temps de la démocratie, des élections. On entend dans le monde écolo une petite tentation nourrie par l'exemple chinois, qui est de dire au fond, est-ce que les démocraties représentatives électorales sont en mesure d'investir sur le temps long comme on est en train de le faire cette non-démocratie, ce régime autoritaire qu'est la Chine. Moi, je suis toujours gêné parce que ça n'est pas loin du discours qui dit il y a ceux qui savent et ceux qui savent pas. On retrouve cette haine de la démocratie, pour parler comme Jacques Rancière, avec l'idée que le peuple c'est bien, mais bon, on a des trucs sérieux à faire, donc on va pas lui demander son avis sur certaines choses. Je ne crois pas, je n'ai pas la solution détaillée, mais les démocraties représentatives occidentales, dans la mesure où elles étaient démocratiques, parce que c'est toujours des démocraties imparfaites, elles étaient largement, ont quand même construit l'État-providence sur des dizaines d'années. On construit l'État-providence, donc pourquoi elles ne construiraient pas l'État écologique ? Donc moi, j'ai une méfiance instinctive quand on commence à opposer le temps de l'écologie et le temps de la politique. Je sens toujours un parfum comme ça d'une tentation antidémocratique. Et juste un mot sur capitalisme pour madame. Moi, je suis anticapitaliste, mais je pense que ça sert à rien de le jeter dans le débat comme ça, d'emblée, comme un mot obus, parce qu'en fait, on écrabouille les autres. Les autres sont là... alors, est-ce que je le suis ? Est-ce que je le suis pas ? Il y a plein de gens qui se posent même pas la question dans ces termes-là. Ici même, l'année dernière, il y avait un atelier écologie et monde ouvrier, et il y avait une militante de Montbéliard qui disait on dit aux gens qu'on va sortir du capitalisme, mais on n'y croit pas nous-mêmes. On sait très bien que demain, et nous-mêmes, pour acheter une maison, on accumule du capital, et les ouvriers pour reprendre la petite entreprise où ils sont 3-4, il y en a un qui va constituer du capital. Donc à quoi ça sert de jeter ce mot-là ? Moi, je crois qu'il vaut mieux, je suis d'accord, sur un programme, mais un programme qui la question, je pense qu'au final, le capitalisme, il n'y a pas de raison que le capitalisme dure pour l'éternité des temps. Aucun système humain n'a duré pour l'éternité des temps. Donc un jour, il va disparaître. Mais je pense que ce qu'on a à construire, c'est un programme sur 5, 10, 15 ans. On va faire bouger un certain nombre d'éléments. Il faut qu'on révise la comptabilité des entreprises, le droit des entreprises, les systèmes socio-techniques, les modes d'énergie, les systèmes de santé, etc. Peut-être qu'à terme, on se dira que ça a fait une politique anticapitaliste. Voilà. Mais je trouve que le dire au début comme ça, c'est paralysant. Voilà. C'est encore une fois une appréciation personnelle.
Merci. Je crois qu'il y avait d'autres questions également. Il y avait la décroissance. Il y avait la décroissance. Il y avait aussi évidemment le temps long de la politique. Moi, je pense que le temps long des entreprises, ça peut être aussi un sujet. Mais bon.
Je vais juste rebondir là-dessus sur le temps long. Effectivement, il y a des entreprises qui arrivent à voir le temps long. Et il y en a qui arrivent pas du tout. Ça peut être lié à la structure du capital. Hein. Si c'est une boîte familiale, vous avez tendance à faire attention parce que vous allez léguer ça à vos enfants. Puis il y a aussi des boîtes familiales où il y a des gens qui crament tout et qui laissent rien à leurs enfants. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il y a rien qui garantit quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il y a des entreprises qui arrivent à penser long terme. Voilà. Moi, c'est juste, je trouve ça intéressant ces débats parce que, enfin. Obviously, on est en train de perdre. Et on va perdre encore beaucoup. Donc, je ne crois pas que la question, ça soit qu'est-ce que c'est le monde idéal et qu'est-ce que c'est la solution pour arriver à quelque chose. Je sais juste que personne ne sait vraiment ce qui peut marcher et donc il faut essayer tout ce qui est possible. Et je pense que c'est notamment pour ça, par exemple, sur les questions de vocabulaire. Effectivement, anticapitalisme, décroissance, c'est des mots qui crispent les gens. Si pour arriver à nos fins, on doit renoncer à ces mots pour porter finalement le projet qu'il y a derrière sans employer des mots qui effraient, je pense qu'il faut le faire. Et bon, c'était juste une mini parenthèse sur ce sujet-là, mais je crois que c'est la différence entre vouloir avoir raison et vouloir gagner. Et je pense qu'à l'heure où on est, il faut qu'on ait envie de gagner et que c'est pas grave si on n'a pas raison. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire sur ce truc-là. Ouais.
Alors, sur le rapport au temps, il faut bien comprendre que, en fait, le récit de la transition ou du développement durable comme étant un sujet de long terme, etc., c'est le récit du renvoi la balle à plus tard. C'est-à-dire, en fait, concrètement, par exemple, au lieu d'avoir des lois de programmation qui mettaient dans le dur un certain nombre de choix, etc., la loi, elle est écrite en disant « L'État se fixe pour objectif qu'en 2050, ce sera comme ci, comme ça. » Donc, c'était le discours de l'inaction, cette histoire de temps long et de long terme. Et nous, ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est apporter une réponse qui soit au présent. Et au présent dans la vie des gens. Pas un truc pour plus tard, etc. Au présent dans la vie des gens. Dans une situation où les moins 80% d'insectes, c'est maintenant, c'est pas plus tard. Les canicules, les inondations, c'est maintenant. Ça sera encore plus grave plus tard. Mais donc je pense que cette question du rapport au temps dans la manière dont on appréhende les changements à opérer, c'est une question centrale, y compris par rapport à la question du rapport à l'ensemble des citoyennes et des citoyens. Et entièrement d'accord, il n'y aura pas de transformation écologique de la société sans une adhésion du peuple au projet. Voilà. Au projet de transformer les choses. Voilà. Ça n'existe pas. Voilà. Et si ce n'est pas construit, si c'est pas profondément ancré, il s'agit pas, vous voyez, juste d'avoir un gouvernement provisoire qui tiendrait pendant quelques heures de plus que Monsieur Lecornu. Bon. Parce que ensuite, voilà, donc ça demande un profond travail de construire une majorité sociologique, une majorité culturelle et une majorité politique pour pouvoir opérer des changements de grande ampleur. Sur la décroissance, écoutez, il faudrait faire un débat en tant que tel sur le sujet. Juste quand même deux remarques. Un, il y a une large majorité des citoyennes et des citoyens qui disent que le modèle économique actuel est incompatible avec la lutte contre le changement climatique. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est dans un travail qu'on a fait faire, nous, à Génération Écologie récemment, eh ben, vous avez 46% des Français prêts à voter pour la décroissance au sens de la réduction de la consommation d'énergie et de matières premières, dont 21% tout à fait. Et ce qui est stupéfiant, et ce qui renvoie un peu à la discussion qu'on avait, c'est que ce chiffre est supérieur à celui du nombre de gens qui sont prêts à voter pour un candidat écologiste. Et ça doit quand même interpeller. Donc après, on peut dire la décroissance, c'est un cadre d'analyse physique, macroéconomique, qui n'est pas nécessairement l'intitulé du projet avec lequel on fait campagne électorale, mais il n'y a pas d'autre choix. Moi, sinon, il faut m'expliquer comment on fait dans la situation mondiale actuelle. Je ne vois pas d'autre choix que d'organiser méthodiquement, démocratiquement, de façon volontaire, la réduction de la consommation d'énergie et de matières premières, et donc d'organiser la décroissance. Je ne vois pas d'autre issue dans la situation dans laquelle nous sommes. Ce qui n'est pas incompatible avec la relocalisation de l'économie, etc., etc. Après, voilà, c'est pour ça que ça mériterait un long débat en tant que tel.
Merci beaucoup, Delphine. Vous pourrez peut-être continuer la discussion entre vous deux, de façon à ce que, s'il y a d'autres questions, on puisse donner la parole, ou de témoignages, on puisse donner la parole à d'autres. Là, je vois un bras... deux autres bras, donc et par ailleurs on n'a pas répondu à la question soulevée par Guillaume Duval. Si ? Mais on va prendre les autres questions et on répondra aussi à cette question. Qui ? Allez-y, je vous en prie.
Oui. Ben, bonsoir à toutes et tous. Merci pour vos interventions, toutes très riches. Je vais vous livrer le fond de ma pensée. Donc moi, c'est Patrice, je suis élu à la ville de Dijon. J'ai quand même été choqué par la question des petits gestes, 20-25% qui seraient contre-productifs. Oui, ok, je comprends la logique de ce que vous avez dit. Néanmoins... est-ce qu'on peut se payer le luxe de se passer du rendement, si je puis dire, de ces petits gestes, 20-25%, c'est pas négligeable, et compte tenu de la gravité de la situation, je crois qu'on ne peut pas s'en passer. Et je pense que le problème, c'est plutôt l'absence d'exemplarité auxquels les petits gens hein, qui individuellement font des efforts, mais il y a une absence d'exemplarité et que ça c'est extrêmement démotivant et que du coup c'est l'aquabonisme, hein, à quoi bon finalement faire attention si l'exemple, s'il n'y a pas d'exemple qui vient d'en haut. Alors l'exemplarité, c'est l'exemplarité des riches, des très riches, c'est l'exemplarité des États, des ministres, du président de la République dans les déplacements, etc. Je ne vais pas passer la soirée à tout ça. Et en termes d'exemplarité aussi, peut-être parler du sujet que les collectivités, dont les investissements représentent quand même 70% des investissements publics en France, eh ben, elles développent quand même de l'exemplarité et des projets assez vertueux sur l'énergie, sur les cantines, sur l'agriculture, etc. Voilà, donc... qu'est-ce que vous en pensez ?
D'accord. Alors, on prend rapidement trois autres questions et puis après, on sera obligé d'interrompre la prise de questions.
J'en profite parce que j'ai le micro, du coup, pendant qu'il voyage.
Ok.
Bon. J'étais très sensible à l'argument... Pardon, je dirige Auxilia, c'est une association qui accompagne les territoires dans la transition écologique. J'étais très sensible à deux choses que vous aviez dit, Madame Bateau. La première, c'est concerne la sécurité. Je trouve qu'effectivement, on a, si je caricature, la droite qui nous bassine avec la sécurité, avec des programmes remplis de mesures qui sont totalement inefficaces, qui n'ont aucune chance de marcher, ni sur le plan de la justice, ni sur celui de la police, ni sur celui de l'écologie, quand ils ont le temps d'en parler. Nous, on est probablement les plus crédibles sur le sujet de la sécurité, de la protection des personnes, maintenant et à long terme. Et pourtant, c'est un thème que je trouve complètement sous-exploité, alors que la protection des personnes pourrait être un argument fort de l'écologie politique, quoi. Ça, c'est donc comment on peut traiter ça, et notamment au niveau local. Et la deuxième question, sur celle de la santé, je suis également convaincu que c'est certainement un angle hyper intéressant pour reparler d'écologie dans des termes différents. Néanmoins, moi, ce que je constate dans ma pratique, et notamment dans les territoires ruraux, c'est que quand on parle de santé, on n'arrive pas à passer le mur du son. Le problème de la santé, c'est les déserts médicaux. Et moi, j'adorerais pouvoir parler de santé environnementale, j'adorerais pouvoir parler des problèmes que le plastique et les perturbateurs endocriniens, ça crée à long terme chez les individus, et donc leur dire, mais nous, l'écologie, c'est une proposition qui vous protège, mais je passe pas le mur du son parce qu'on me dit, ouais, mais moi, j'ai plus de médecin traitant, j'ai plus de médecine du travail, donc les employeurs, ils se barrent, et les salariés, ils vont consulter, ils font 200 bandes pour aller consulter. Je voulais savoir, du coup, ma question est la suivante, est-ce que vous arrivez, dans les Deux-Sèvres, à parler de santé de cette façon-là ? Comment vous y arrivez ?
Merci beaucoup. Rapidement, les deux autres questions.
Oui, je vais prendre ici la question. Du coup, je m'appelle Erwan Nicolas, donc je suis aussi étudiant comme mes deux camarades de devant, et je suis aussi adhérent et militant au Parti Equinox, donc qui est un petit parti écologiste. Moi, j'avais une question. Alors déjà, rapidement, pour réagir juste sur le chiffre qui a été avancé des 20% de gestes individuels, pour répondre un petit peu déjà au monsieur de devant, faut bien comprendre que c'est en faisant des sacrifices énormes de la part des individus. Donc c'est quelque chose qui n'est pas soutenable d'un point de vue... Enfin, il faudrait vraiment que tout le monde soit de très très bonne volonté et prêt à faire des sacrifices vraiment inenvisageables, en fait. Donc c'est ce chiffre qui avait été avancé par Jean Covici. Ensuite, mon sujet, c'est aussi sur ce que vous avez dit, Delphine Bateau, sur le potentiel énorme de la société. Donc c'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, mais dont justement je trouve que les mouvements écologistes et les élus écologistes ne se saisissent pas assez. Et notamment au Parlement, il y a un super outil qui pourrait être mis en place par les députés de gauche écologistes en lien avec leurs camarades sénateurs. Ça pourrait être le référendum. Il me semble que c'est 185 députés qui... membres du Parlement qui peuvent être à l'initiative d'un référendum. Pourquoi est-ce que justement, après la loi Duplomb, la pétition qui a réuni 2 millions de signatures, il n'y a pas eu une initiative qui pourrait justement faire parler de l'écologie dans la société, utiliser la force de la société et la force des gens pour imposer ces sujets dans le débat public? Voilà.
Oui, c'est moi. Voilà. Bonsoir, Luc. Moi, j'avais deux questions qui n'ont pas été abordées dans la reprise de pouvoir, hein, qui était repartir à l'offensive. C'est premièrement, et ça rejoint complètement ce qui vient de dire, on a énormément d'initiatives qui marchent, qui sont extraordinaires. Moi, dans tous les colloques depuis 20 ans, je vois Monsartout. Ça fait 20 ans que Monsartout est extraordinaire. Ça fait 20 ans que Mutelholz est extraordinaire. On les voit partout. Comment se fait-il qu'on n'a pas 36 000 Monsartout et 36 000 Mutelholz? Donc, on ne vous a pas du tout parlé de cette logique d'exemplarité, c'est-à-dire montrer que ça marche. C'est-à-dire qu'on passe notre temps à nous dire qu'on est dans le des rêveurs. Et finalement, les entreprises comme la vôtre, combien de chefs d'entreprise viennent dans votre entreprise, discutent de votre comptabilité, de votre business plan? Combien d'instituteurs vont dans les écoles dehors, dans la forêt, pour repartir en disant pas « Ah, mais c'est très compliqué, jamais j'y arrive, oui, c'est bien, c'est formidable ce qu'il fait, mais moi, je peux pas. » Et je pense que cette exemplarité par les pairs est absolument pas au cœur du projet. Or, on sait que c'est ça qui marche, quoi. L'agriculteur qui va voir l'autre à côté, qui lui dit « Mais moi, je suis vachement plus heureux que toi, et en plus, je vais pas avoir un cancer à 35 ans. » Il n'y a pas de raison de dire « Ouais, mais toi, t'es anticapitaliste. » Et voilà, je pense qu'on a complètement oublié ça. Et l'autre question que j'avais, qui sur la transition, moi, je ne crois pas du tout qu'on a besoin d'une transition, parce qu'on doit passer de 10 à 2 tonnes. Et ça, ce n'est pas une transition. C'est une révolution, c'est un autre monde. Et je voulais savoir si le projet à construire aujourd'hui dont vous avez parlé pour les écologistes, c'est un projet effectivement de transition, pour dire qu'il faut ralentir déjà la machine, pendant se mettre en condition pendant 10-15 ans, ce que vous évoquiez, pour, dans 15 ans, faire la révolution. Parce que ce n'est pas la réduction de la société actuelle qui va nous passer de 10 à 2 tonnes. Ce n'est pas possible. Enfin, c'est absolument impossible de passer de 10 à 2 tonnes rien qu'en faisant plus attention, avec des énergies renouvelables, avec des maisons isolées, avec des voitures moins polluantes, ça passe pas de 10 à 2. Et ça, je pense que ce serait malhonnête de dire qu'un projet à 10-15 ans peut faire passer de 10 à 2. Ce serait la meilleure manière d'avoir un rejet extrêmement violent dans 10 ans, puisqu'on aura fait un gros travail pour rien.
Merci beaucoup. Alors, on a complètement, on pourra pas du tout respecter le fait de terminer à 20h45 pour ceux qui veulent aller au cinéma. Je crois que Delphine, tu dois prendre aussi un train. Hein, vous allez essayer de répondre de manière rapide et ultra percutante.
Moi, j'ai les notes de Delphine, si vous voulez.
Pour
répondre.
Ok. Voilà. Donc que ceux qui prennent leur ou celles qui prennent leur train répondent en premier.
Ok, alors je vais répondre aux deux questions qui m'étaient adressées. D'abord sur la santé, dans les Deux-Sèvres, etc. Donc en fait, je suis une des fondatrices du groupe transpartisan contre les déserts médicaux. Il y a ma collègue Dominique Voynet qui en est membre aussi. On est des députés de 9 groupes parlementaires différents. Et ça fait 3 ans qu'on est sur cette bagarre. La deuxième réflexion que je voulais vous faire par rapport à votre question, moi j'organise dans les Deux-Sèvres ce que j'ai appelé l'Assemblée permanente de la circonscription. C'est-à-dire, on va dans les villages. C'est pas une réunion publique électorale où moi je parle. En fait, c'est les habitants qui discutent, qui choisissent les sujets dont ils vont discuter pendant 2 heures. Ils votent sur ce choix des sujets. Et en fait, tous les palmarès des récentes assemblées permanentes que j'ai organisées, il y en a une dernièrement, je m'attendais à ce que les gens votent la situation de la France, le manque de gouvernement, la dette. Les gens, ils ont voté 1, déserts médicaux, 2, l'eau, 3, les pesticides, 4, la situation de la France. Voilà. Donc nous, sur le terrain, en fait, on a clairement une augmentation des maladies. Donc on a plus de personnes malades, on a des témoignages de médecins sur l'augmentation d'un certain nombre de maladies qui sont... C'est pas un hasard ce qui s'est passé sur la loi Duplomb sur le Conseil national de l'ordre des médecins, c'est qu'il y a des remontées de terrain aussi hein, sur ce qui se passe. Voilà. Moi les gens ils font un peu le lien, voilà. Et puis faire 200 bornes de bagnole pour aller voir un dentiste, ils font aussi un peu le lien. Voilà, donc ça reste quand même le sujet santé. Sur la loi Duplomb, pourquoi on n'a pas demandé un référendum d'initiative partagée? Eh ben parce qu'on peut pas. Voilà, on aurait bien voulu, parce que quand même, ils ont gagné juridiquement, sauf sur les néonicotinoïdes, mais ils ont perdu la bataille de l'opinion. Et donc effectivement, on se pose la question de comment prolonger la pétition, comment la transformer, parce que les signataires de la pétition, ils ne demandent pas un débat. Hein, il demande l'abrogation. Donc on s'est évidemment posé cette question. En fait, vous ne pouvez pas déclencher de référendum d'initiative partagée sur une loi récemment adoptée pendant un délai d'un an. Donc en fait, c'est un chemin qui nous est bloqué pendant un délai d'un an depuis le 11 août 2025, date de la promulgation de la loi Duplomb par le président de la République, malgré que 64% des Français demandaient qu'elle ne soit pas promulguée, dont la moitié de ses électeurs et 40% des électeurs du Rassemblement national. Ce qui est remarquable dans ce qui s'est passé autour de la loi Duplomb, c'est que la pétition, ils ont voulu faire croire que c'était un truc instrumentalisé par 3-4 influenceurs écologistes. Non. Si d'ailleurs on compte tous les gens qui n'ont pas pu signer avec France Connect, là on serait probablement plutôt à 3 millions de signatures qu'à 2 millions. Et ça dépasse les clivages. C'est ça qui est aussi intéressant. Donc c'est effectivement pas quelque chose qui doit tomber dans l'oubli. C'est pour ça qu'on a déposé une proposition de loi d'abrogation. Qu'on va voir quand l'Assemblée nationale finira un jour peut-être, soit celle-là, soit une autre Assemblée nationale, par reprendre ses travaux, comment mettre à l'ordre du jour ce combat. Mais la voie référendum nous est fermée, pour l'instant.
Oui, un petit mot sur les petits gestes parce que du coup c'était l'interpellation directe. Comme l'a précisé le monsieur, le chiffre, bon, de toute façon c'est des calculs qui sont discutables, mais dans le calcul du chiffre, enfin de carbone 4 de l'entreprise de Jean Covici, c'est vraiment 20%, c'est le scénario héroïque. C'était vraiment, il y a une proportion très importante de gens qui font beaucoup de petits gestes, donc c'est très très peu probable. Par ailleurs, moi j'ai rien contre les petits gestes, j'en fait, je pense que c'est un enjeu éthique. Et c'est très intéressant d'en discuter entre nous, mais je pense que ça ne fait pas un projet politique. Et je pense que vous dites pourquoi se priver de ça? Parce qu'en fait, on a bloqué la situation avec ces injonctions des petits gestes. Ça fait 15 ans, ça fait 20 ans qu'on fait ces, même plus en fait, ça commence dès les années 70. Et je rappelle juste que ce sont les industriels qui ont lancé cette idée des petits gestes. C'est raconté, je dis un peu dans le livre, c'est les industriels qui, dans les années 70, ont commencé à dire « ne polluez pas la nature ». Avec notamment la canette de bière, alors même que la canette de bière, ça avait été imposé par les industriels dans les années 30 pour remplacer la consigne, parce que la consigne, ça faisait pas de profit. Donc en fait, les petits gestes, ça a été inventé par les industriels pour nous dire les saloperies qu'on a mis dans la nature, merci de vous en occuper. C'est vraiment les externalités négatives. Donc je ne crois pas que ça puisse fonder une politique, et deux, ça vient déséquilibrer la responsabilité de ce qui se passe. Si on est dans cet état de situation, c'est qu'il y a des gens qui se sont fait énormément d'argent en balançant leur saloperie dans la nature. Donc dire aux gens modestes dont vous parliez, regardez, on est exemplaire, faites comme nous. Enfin, moi, j'ai pas envie d'être exemplaire pour eux. J'ai pas envie de leur dire ça, et je pense que ça serait pas juste. Voilà, ceux qui doivent être exemplaires, c'est ceux qu'ont salopé la nature. Donc c'est ceux qu'ont gagné. Enfin, les milliers, Piketty dit qu'il devrait y avoir des compensations sur l'esclavage. Moi, je pense qu'il faudra qu'il y ait des compensations un jour sur les émissions de CO2. Un siècle et demi d'actionnaires qui se sont gavés. Voilà, et c'est, pour moi, le gros geste, il est là. Voilà.
Merci Delphine et bon train. Je vois que la salle se vide petit à petit. Est-ce que vous, Christian,
non, je voulais juste.
Ouais.
Moi, je partage totalement ce que vous avez dit. Hein, passer de 10 à 2 ou même de 8 à 2, c'est pas une transition, c'est une reconfiguration totale du système de production et de consommation. Je pense que le problème, c'est que tout le monde parle de transition, donc c'est bon. Le terme de transition, il a quand même un intérêt, je trouve, et moi, je partage complètement ce que dit Delphine, c'est que le temps long, souvent, est un espèce d'alibi pour se dire on a le temps, si vous voulez. Donc, en fait, une transformation totale qui... On est déjà dedans, si vous voulez. C'est une transformation qu'il faut amorcer tout de suite. Et sur la décroissance, moi je suis économiste. Bon, quand j'ai commencé l'enseignement d'économie, effectivement, j'étais sur un modèle. Hein, l'objectif de l'économie, hein, c'était l'abondance des biens et services, etc. J'ai complètement changé ma pratique d'enseignant et de recherche. Hein, et maintenant, on est dans une économie de la résilience. Vous voyez ? Et donc toute la théorie économique, je pense, va se reconstruire sur la question de la résilience. Et ça cause aux entreprises, hein, quand vous dites la résilience, parce que toutes les boîtes, qu'elles soient petites, moyennes ou grosses, leur premier souci aujourd'hui, c'est d'être résilient par rapport à toutes les contraintes. Voilà. Merci beaucoup. Tu voulais rajouter quelque chose ?
Merci. Et Julia ? Un petit mot ? Non. Alors écoutez, merci à toutes et tous d'avoir été là. J'espère que vous repartez requinqués et plein d'une envie politique, parce que je crois qu'un des éléments qui a été vraiment mis en scène, décrit, c'est l'idée que nous sommes mal représentés, mais que nous pouvons l'être beaucoup mieux. Merci.